Alors après avoir beaucoup parlé, c'est le moment de laisser la parole au public et aux lycéens. Mais avant, on va entendre pour lancer ce temps d'échange une nouvelle lecture de votre roman Dans les yeux des autres par l'une des bénévoles de la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui.
Le plateau du Scrabble est occupé par une partie en cours. L'entrelac des mots sur la table de jeu fait comme une butte témoin, un fil, une base continue. Fusiller en abscisse et foutre en ordonnée. Termite sur le T, Murène sur le R, Savona sur le N. Molly tire 7 vieilles lettres en bois foncé. Elle pose X. Le X compte triple 2 fois, dit-elle avec détachement. 64. Anna pose roture, 14. Molly pose yen, 90. Anna aligne asthme, 16. Molly pose U, 74. Alors, Anna renverse la table. Molly la regarde, attristée, ébahie. « Je ne veux plus jouer, » dit Anna. « Pas avec toi. »« Je ne joue plus. »« Vois-tu, nous ne jouons pas au même jeu. » Tu accumules les points. Où sont les mots? Mais qui se soucie des mots? Maintenant, elle est en larmes. Même au Scrabble, qui s'en soucie? N'est-ce pas un comble? C'est chacun pour soi, la gagne, la compétition, les additions, la bataille. Où est la beauté du geste? Qui se préoccupe de la courbe des sons? Où est le sens du jeu commun? Tu es très emmerdante, dit Molly. L'écrivain est un espion tapis au milieu des siens. Il trahit, c'est son caractère. Il persévère dans son être. Tel le scorpion monté sur le dos glissant de la crédule grenouille qui la pique et la tue au milieu de la rivière. Obligation de dire. Faire de sa vie la matière de son œuvre. Comme le peintre qui, son carnet d'esquisse à la main, attrape au vol une grimace, une démarche, la courbe d'une joue, un regard, une ligne de crête, un coucher de soleil. Le dessinateur s'entraîne sans cesse, l'écrivain aussi. Anna s'est entraînée à mettre en mots, en phrases, sans clichés, sans redites. Les espoirs brisés, les amours trahis, les ironies du sort, les amitiés trompeuses, les ambitions ridicules, les appétits sordides, la fatigue de vivre et les désillusions. Ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. Elle a tenté de dire d'une manière neuve que le roi était nu, et la reine aussi. L'amour, la mort, la politique, la laideur des sentiments, les poils pubiens, les petits gestes ordinaires et sadiques, la méchanceté, ou simplement ce que nos existences recèlent de trop ennuyeux, elle a tout fourré dans un livre qu'elle a intitulé « À bas la mort ». Le contraire de « Viva la muerte ». Un titre probablement pompeux, juvénile, elle ne le referait pas aujourd'hui, donner un nom pareil à un livre. Vaine bravade. Un peu plus loin. En littérature, la colère est bonne conseillère. Et Anna n'a jamais cessé d'être en colère. A adoré écrire ce qu'il ne faut pas, dire les choses qui sont derrière les choses, ouvrir la porte interdite qui mène aux coulisses, ricaner sottement devant les mensonges utiles. Le tissu social de la bienséance et des conventions lui serre le cou comme les écharpes qu'on est obligé de mettre quand il fait froid. Si elle ne crache pas le morceau, elle meurt. En le crachant, elle est morte aussi. Elle a cru que les choses étant dites, l'étau se desserrerait. Elle a aimé marcher sur les pelouses interdites, prendre le métro sans payer et écrire des histoires. Pourquoi écrire si cela ne dérange rien ni personne? Les mots sont les armes de la pensée libre. Il faut s'en servir. Sinon, ils rouillent. Sinon, elles meurent. Le silence, le règlement, la censure sont les principaux moyens de l'oppression politique, familiale, économique. Elle l'a pensé, elle l'a dit, elle l'a écrit. Et n'en a peu mesuré les conséquences, le prix. Elle s'était forcée pourtant de crypter son histoire, de ne faire de mal à personne, de ne pas faire de mal à une mouche. S'était forcée de ne pas fâcher les camarades de lutte, ni le reste de la famille, ni personne en vérité. Elle a masqué les noms, combiné les destins, omis de citer diverses informations calomnieuses. À bas la mort est un roman. L'autocensure s'y déploie. Pas de méchanceté, ou point trop. Pas de désordre. Du caviardage, des ellipses, de la discrétion romanesque. Des déplacements, de la tambouille, un miroir en bison, le long des chemins creux de la vie.
Merci. Alors, je crois savoir que la classe de première L qui est venue aujourd'hui est tenue à écrire un texte de manière originale pour se présenter.
Nous, étudiants en goguette, constituant un effectif nommé Première, se passionnant pour Hugo, Rimbaud, Camus, Maupassant, Ionesco, Racine, Beckett, Diderot, de Musset, Brésac, Proust, Sand, Montesquieu, Pérec, Rousseau, Ronsard, Cocteau et autres grands écrivains. Au nombre de 19, dont permettez que rapidement nous effectuions un décompte pour nous ardu, car nous aborons cette science qu'on nomme mathématique, dont 14 personnes de sexe féminin et 5 garçons, considérant qu'une de nos camarades s'en est retournée dans son pays d'origine où sautent des kangourous, et que nous comptons parmi nous deux autres étrangères, américaines et indonésiennes, nous étudions pour une majorité cet art cinématographique qu'est de faire naître des rêves sur un écran. Nous sommes aussi tous désespérants aux yeux de professeurs assidus d'EPS quand vient ce fameux moment tragique, un match de sport se jouant avec des mains, un tissu suspendu troué de petits carreaux et un objet sphérique qui autrefois fut fabriqué en panse de brebis. Nous pratiquons un certain nombre d'idiomes, dont ceux des adeptes de chorizo et de corrida, des buveurs de thé habitant une terre entourée d'eau, de mangeurs de pâtes et de pizza et d'amateurs de choucroute germanique. Mais nous n'admettons aucun stéréotype, bien sûr. Et pour finir, nous décrire sans user jamais du 12e caractère de cette énumération de signes qui permettent d'écrire est une manière, comme une autre, de nous présenter. Bravo.
Qui veut se lancer pour la première question ?
Bonjour.
Et mes camarades et moi-même avons tenu à savoir quels étaient vos auteurs préférés et s'ils étaient une source d'inspiration.
Très bonne question. Donc mes auteurs préférés sont une source d'inspiration. Ils varient selon les jours, forcément, parce qu'on ne peut pas avoir tous les jours les mêmes auteurs préférés. Donc pour aujourd'hui, ce sera Kafka, Proust, Virginia Woolf et une anglaise que vous ne connaissez pas, on ne sait jamais, qui s'appelle Sylvia Townsend-Warner, qui a écrit un roman magnifique, enfin plein de romans magnifiques, mais entre autres un qui s'appelle Laura Willows, qu'on trouve en collection Folio, je pense. Pérec en fait aussi partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Et puis peut-être aujourd'hui particulièrement, en ce moment, j'aime énormément deux Grossman, Vassili Grossman et David Grossman. Et puis j'ai une passion immense pour Isaac Babel. Et puis on va s'arrêter parce qu'après je vais même. Et puis j'ai aussi une amie écrivain lyonnaise qui s'appelle Florence Sévos qui vient à Lyon aujourd'hui, enfin qui arrive aujourd'hui, avec laquelle il y a une rencontre avec Zerouya Chalef vendredi soir, et dont je pense que c'est un écrivain miracle. Mais Zerouya Chalef aussi, pour moi, est un très grand écrivain.
J'ai voulu savoir en fait comment est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous écrivez en cherchant, ou est-ce que l'inspiration vient toute seule
Alors je sais, parce que je sais pour l'avoir lu dans d'innombrables journaux d'écrivains, que la meilleure méthode consiste à s'asseoir 2 heures par jour, de préférence à la même heure, tous les jours de la vie, et d'attendre que ça vienne. Et alors ça vient ou ça vient pas. Ça c'est la bonne méthode. Je ne l'applique pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais de fait, j'ai jamais trouvé ces. Je ne sais pas quelles sont ces fameuses 2 heures. Peut-être je vais un de ces jours, elles vont. Mais pour le moment, pendant très longtemps, moi j'ai des enfants, je travaille, etc. Donc pas le matin, il faut aller à l'école, après au boulot. Donc j'avais pas les 2 heures. Et puis je suis pas vraiment quelqu'un du matin, et je ne suis pas non plus tellement du soir. Je ne suis pas totalement quelqu'un du midi, donc trouver les 2 heures, c'est pas tellement évident. Mais au bout du compte, je crois que le travail se fait plus ou moins n'importe comment, et je crois que je suis toujours plus ou moins en train d'écrire, et sauf quand je suis trop déprimée, mais sinon donc bon an mal an, ça finit par se faire, ouais. Là, je vois bien, je suis en train d'écrire un... Je suis en train d'écrire un livre, et donc ce livre, bah, tout ce que je vis, ce que je traverse, la campagne qu'on a traversée avec Amélie Lampenant, tout ça, j'y pense, quoi. C'est, ça vient, ça, se, ça s'agglutine, ça, ça se met dedans, quoi, en fait. Mais j'ai jamais... par exemple, j'ai fait des résidences d'écrivains, comme tout le monde, alors, mais là, vous êtes punis, vous êtes dans votre chambre... T'as quand même ce que je peux sortir, là je peux pas sortir, là je reste. Et c'est pas du tout. Il y a un truc de liberté, l'écriture c'est très sauvage en fait, c'est très insolent. Ça, ça, l'inspiration se présente certainement pas quand vous l'attendez. Donc, mais en même temps, c'est sûr que si vous asseyez jamais derrière une table, à la fin de vos 60 ans, vous n'avez pas énormément de livres. C'est, donc ça dépend. Mais je cherche pas, dans le sens, pour la répondre à la question, je suis pas, je suis pas, enfin, par exemple, si je prépare un cours ou une conférence, là, c'est différent. Je m'assois, je rassemble mes documentations, je fais mes recherches, je lis des livres, je prends des notes, je construis mon cours, ma conférence. Ça, c'est un travail qui a ses, son canon, quoi, et ses méthodes, comme quand je passais des concours, comme ça. Mais après, vous ne pouvez pas écrire un roman ou comme vous passez un concours ou comme vous écrivez un cours ou une conférence. Vous êtes obligé de laisser... c'est très compliqué parce que en même temps, il faut laisser l'oxygène, l'air, l'inconscient circuler, sinon il n'y a pas de création. Et en même temps, il faut un cadre. Donc, c'est ce jeu avec soi-même qui consiste à être en dehors de soi-même et quand même dedans, qui devient d'ailleurs, ce qui est, d'ailleurs, vous l'avez bien compris en m'écoutant, qui devient une façon d'être, une force, enfin, comme pour tout le monde, on finit. Donc maintenant, je suis cette personne-là qui passe son temps à être en dehors d'elle et à regarder ce qu'elle fait tout en cette espèce de... C'est ce que disait Proust, hein. Il disait le propre d'un écrivain, c'est finalement de passer sa vie à sortir de lui-même pour regarder le petit être vivant qui circule, quoi. Ou qui ne circule pas. Mais, oui.
On parlait de Camus tout à l'heure et je pensais, quand vous parliez là, on parlait aussi de la solitude de l'écrivain. Je pense à une nouvelle, Jonas ou l'artiste au travail, et où à la fin on ne sait pas si ce peintre a écrit sur sa toile solitaire ou solidaire. Mmh. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on trouve ce juste équilibre en tant qu'écrivain ? Entre la solidarité et la solitude.
C'est une vraie question qui se pose tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, je me disais avec horreur, quand vous avez dit, Céline, que j'étais une militante formidable de Bibliothèque Sans Frontières, c'est tellement une mauvaise militante de Bibliothèque Sans Frontières. Quoi.
Vous en parlez en tout cas, vous la représenter en un sens.
Là, je sais pas, en arrivant ici, j'ai vu qu'il avait envoyé 3 messages pour me dire qu'il y avait un conseil d'administration cet après-midi, donc je vais être lourdée. Mais en même temps, je trouve ça, quand on a commencé, quand Patrick Veil m'a contacté il y a 8 ans ou 9 ans, pour me dire je vais fonder une association qui s'appellera Bibliothèque Sans Frontières de solidarité avec les gens qui sont victimes de catastrophes naturelles ou pas naturelles, et pour apporter des livres dans des bibliothèques dévastées dans des pays aussi variés que Haïti ou la Géorgie ou la Syrie ou la Jordanie, etc., etc. C'est trop ça génial, mais le fait est que je ne suis allée ni en Jordanie ni en Haïti, donc je suis nulle. Donc peut-être finalement je vais aller, mais je sais pas. Et ils ont, là, on a mené toute une campagne pour les bibliothèques, par exemple, que je trouve vraiment très bien, pour dire que les bibliothèques devraient être plus ouvertes et à des lieux plus de vie où on peut faire plus de choses, des lieux de circulation. Je trouve ça essentiel. Je trouve ça essentiel de relier. Là, ils ont mis au point un truc qui s'appelle une Ideas Box, qui est une boîte qui a été dessinée par Philippe Stark, et à l'intérieur de laquelle il y a des livres, et puis des ordinateurs, et puis des méthodes pour en transmettre, former aux mathématiques les premières L récalcitrantes qui traînent partout. Et c'est vachement bien. En l'occurrence, c'est plutôt Patrick Veil qui fait tout, et moi, pas grand-chose.
Justement, la question de l'équilibre entre être solitaire et solidaire est très intéressante. Dans votre roman, on a une espèce de flux de conscience qui s'empare des personnages dans l'écriture, donc on est à l'intérieur d'eux, etc. Et puis parfois, vous employez le nous. Mmh. Vous dites, soudain, on a une phrase, mais c'est très rare, c'est à travers vous, on va avoir 3 occurrences. Nous pleurons de rage, nous sourions. Mmh. Mais c'est qui ce nous ? Qui incluez-vous dans ce nous ?
C'est ouvert. porte est libre. c'est comme faire surgir le jeu. C'est le nous qui inclut le lecteur, je crois aussi. Hein.
On est happé par.
Je crois, enfin j'espère.
Oui, oui.
C'est ça l'idée.
Bonjour.
Bonjour.
Même si vous en avez déjà un peu parlé, on se demandait quelle est d'après vous la place de l'auteur dans la société, parce que vous êtes éditrice mais aussi auteur, et donc d'après vous, quelle est la place de l'auteur?
Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il sert à quelque chose?
Pas tellement. En fait, il n'y a pas de place. C'est les livres qui importent. Moi, je suis pour l'effacement des auteurs au profit des livres. Je trouve que les auteurs, enfin les auteurs, déjà, les écrivains en tant que tels, Mélanie enfin, était un écrivain, était très chiant, par exemple. L'écrivain en tant que tel n'est pas un personnage particulièrement. Intéressant, c'est quelqu'un qui est traversé, donc c'est ce qu'il offre aux autres qui est intéressant. Je comparais au boulanger, pas le boulanger, beaucoup plus utile évidemment, mais
c'est
la place de l'écrivain, il y en a pas. Enfin, je pense qu'il doit se sentir une grande responsabilité. Parce que on ne peut pas faire autrement, et en même temps aucune responsabilité. Donc tout est très à double tranchant. Aucune responsabilité, puisque on rejoint cette question du solidaire, solitaire dont vous parliez. Mais je suis absolument contre la starisation des écrivains, parce que je trouve ça ridicule. De toute façon, je suis contre la starisation de qui que ce soit. Je trouve que ça va contre la littérature, ça va contre le partage, ça va contre la lecture. Moi, je suis pour qu'on lise à haute voix, qu'on lise de tout. Mais l'écrivain, on s'en fout, en fait. Oui, c'est Jean Rhys, donc, que j'ai commencé à citer, mais je me suis arrêtée en route. Donc, il y a aussi une femme que j'aime énormément. Elle disait qu'on est écrivain à certains moments. Mais d'ailleurs, Proust dit ça aussi. On est écrivain quand on est en train d'écrire. Mais le reste du temps, moi je suis Geneviève, je me promène pas. Ça n'a pas de sens. Quoi. Je suis pour partager ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'éprouve, ce que je pense avec toutes les personnes qui souhaitent le partager avec moi. Mais en tant que tel, disons que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Forcément, il y a une fonction de témoin. Je prends un autre exemple, un écrivain que j'aime énormément qui s'appelle Isaac Babel. Isaac Babel, il est un jeune garçon à Odessa en 1908 ou 10, je ne sais plus. Et il va voir Gorky et il lui dit, voilà, je veux écrire, j'écris. Ma mère veut que je sois violoniste, mais moi, le violon, ça, je suis nulle. Et Gorky lui dit, mon vieux, quand tu auras vécu, vu beaucoup de choses, on verra ce que tu es capable d'écrire. Et donc, il s'engage, c'est vraiment un intello, pur intello, avec des lunettes et pas du tout violent. Et il s'engage dans une colonne de révolutionnaires. Il part faire la guerre contre les Blancs, je ne sais plus où, là-bas, vers Brest-Litovsk. Et là, il est avec la colonne de Bouzieni, hein, cette armée révolutionnaire en 1918-1920. Et il regarde tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est horrible. C'est-à-dire que les Cosaques se comportent, les Cosaques rouges, hein, moyennement bien. C'est-à-dire qu'ils violent les femmes, ils trucident les animaux dans le meilleur des cas, ils tuent les paysans. Enfin bon, ensemble, c'est assez moche. Quoi. Et c'est quand même la révolution, mais c'est quand même moche. Et donc, ils racontent tout ça. Et en particulier, ils se moquent beaucoup du général, parce qu'il y a de la moquerie. Vous avez remarqué que je suis assez moqueuse. Et je pense que la moquerie, l'insolence, le ricanement, la légèreté est constitutionnelle du rôle de l'écrivain. Commence par se moquer, déjà, ça c'est pas mal. Et donc il se moque de Bouzieni, et manque de bol, Bouzieni est ministre de l'Intérieur 20 ans plus tard, et Isaac Babel est arrêté, assassiné, et on ne le revoit plus jamais. Donc il y a un petit danger quand même, quoi. C'est un peu le détail de ce que je raconte est peut-être imprécis, et les gens que ça intéresse vraiment, je leur conseille d'aller vérifier les faits que j'ai, qui sont pas exactement ça, mais le fond de l'affaire, c'est-à-dire il se moque de Bouzieni, et en particulier Bouzieni lui a je me souviens, il y a une scène qui ressemble à une scène de Bergman dans L'œuvre du serpent, qui est un très beau film de Bergman. Et comme vous êtes en classe de cinéma, je suppose que tout le monde le connaît. Et il y a une scène où on lui écrase des lunettes et lunettes par terre. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, le fait qu'on attrape les lunettes de quelqu'un et qu'on les écrase par terre. C'est une... je sais pas, c'est un geste fasciste un peu par essence, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Et parce qu'évidemment, la personne à qui on a arraché ses lunettes et on les a écrasées, c'est une forme, façon d'être désarmée qui est assez spéciale, hein, quand même. Bref. Et donc, il raconte ça dans une de ses nouvelles de ces années-là. Et donc, Bouzzini, évidemment, quand il la lit, ça ne lui a pas du tout plu, quoi. Et c'est un peu, j'en parle indirectement. Évidemment, quand on écrit, on ne peut pas s'empêcher de. Si on dit ce qu'on voit, forcément ce qu'on voit ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Parce que chacun, si tous les gens qui sont dans cette salle écrivaient comment ils ont vécu cette scène qu'on vit depuis 10 heures du matin, détail par détail, et qu'on les lisait, tout le monde serait assez étonné de ce que chacun a vu, entendu, remarqué, décrit, et ça ne ferait pas forcément plaisir à tout le monde. Donc il y a dans cette intériorité mise à l'extérieur forcément quelque chose qui est dérangeant, et ce n'est pas forcément méchant, mais en tout cas éventuellement dérangeant, puisque... mais c'est transformé en fiction, ce n'est pas pour dire du mal. Et par exemple, il y a quelques jours, on parlait avec Arnaud Desplechin de son film, puisque vous êtes une classe de première L, option cinéma, si j'ai bien compris, vous avez peut-être déjà vu « Trois souvenirs de ma jeunesse ». En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous le verrez, parce que c'est un très très beau film. Et donc, dans le film, les parents, la mère est psychopathe et elle se suicide au bout d'un quart d'heure de film, et le père bat son fils. Donc le réalisateur était très inquiet, il a écrit à ses parents, mes chers parents, surtout vous avez remarqué maman que tu es vivante, donc tu n'es pas une psychopathe qui est morte, pour commencer, et d'autre part, papa tu sais très bien que tu ne m'as jamais battu, donc il n'y a pas de problème. Et c'est des choses comme ça, c'est-à-dire, moi je passe mon temps à m'excuser auprès de ma famille, enfin, mes enfants, de toute façon, m'ont déjà dit que les comptes seraient réglés un jour, mais que les droits d'auteur devraient leur être versés, évidemment. Mais... enfin, comme il y en a une qui est éditrice et l'autre qui écrit, bon, ça va, quoi. Elles ont de la marge pour se venger, je veux dire, en fait. Je veux dire, elles le font déjà.
Alors, justement, vous venez de parler du film d'Arnaud Desplechin. Il présente une image des années 70. Dans son film, vous en présentez une aussi dans votre livre.
Un peu plus tard, lui, quand même, non ?
Oui, pas beaucoup plus tard. Ouais. Pas beaucoup plus tard, je crois. Enfin, disons une image d'une certaine époque de la jeunesse. Mm-hmm. Comment vous les situez l'une par rapport à l'autre ? Et est-ce que, s'il y a des différences et lesquelles, est-ce que dans un cas, c'est un traitement par l'écriture et dans un autre cas, un traitement par l'image ? Est-ce que ça tient simplement à cela ?
Ben, je pense qu'Arnaud Desplechin est vraiment un cinéaste extrêmement écrivain. Et moi, je suis un écrivain extrêmement cinéaste. Donc, dans son film, Trois souvenirs de la forme même, de Trois souvenirs de ma jeunesse, même la référence au flux de conscience, à Joyce, etc., c'est vraiment très près de la littérature. Et le chapitre dans le livre, le deuxième chapitre, où on voit le jeune Paul partir en Union soviétique pour aider des dissidents, et la manière dont il donne son passeport pour aider je spoil grave, en fait.
N'en dites pas plus.
Voilà. C'est très près de Dans les yeux des autres, je pense. C'est exactement cet esprit-là. C'est...
D'accord.
Vous parlez de conte à rendre entre parents et enfants, ou enfants et parents. Et je suis un petit peu étonnée qu'ici, on n'ait pas parlé de votre livre « Une année avec mon père », que j'ai trouvé d'une sensibilité, d'une finesse. Et là, il n'y avait pas de compte à rendre.
Non, mais je
compte à rendre. Non, mais je n'ai pas senti ça. Oui. Mais j'ai senti une souffrance de part et d'autre qui était assumée, qui était... Ah, c'était extraordinaire. Et je me demande si vous l'avez écrit pendant cette année ou après.
Après. Oui. Oui, j'avais aucune... Non, je l'ai écrit. Je n'avais pas de carnet, même, d'ailleurs.
Ah oui. Tout en ménageant encore la sensibilité, la fierté du père, et malgré toute cette souffrance qui envahissait, enfin, qui... C'est étonnant. Lisez-le.
Mais c'est ce livre-là qui m'a fâchée avec ma famille, donc vous voyez comme quoi c'est paradoxal. Ouais. Il n'y a plus personne ne me parle depuis. Alors je suis obligée de venir à Lyon pour parler à des gens.
Et j'ai commencé des comptes à rendre.
Non, non, c'est juste que le fait... D'ailleurs, en plus, je le comprends. Je parle de la dernière année de vie de mon père après un accident de voiture. Et donc, forcément, pour le reste de ma famille, en particulier mes frères et sœurs, c'est de quoi... Comment tu oses prendre la parole enfin, ce type que tu racontes n'a rien à voir avec mon père. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis, écoute, écrivez votre livre. Non, mais en même temps, j'ai rien à dire. Je suis d'accord pour qu'elle soit fâchée. Bon, voilà, je suis pas d'accord, mais c'est pas rien. Quoi. C'est... Et puis, il y a aussi cette histoire du scorpion et de la grenouille aussi. C'est que, ce que mes filles, d'ailleurs, ont fini par comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand vous êtes devenu écrivain, vous êtes écrivain. Donc, c'est ça que vous faites. Et c'est... Vous ne pouvez pas faire autrement et autre chose que ça. Enfin, vous pouvez arrêter. Mais sinon, vous ne pouvez pas ne pas le faire comme vous le sentez. Vous pouvez... Vous n'avez pas envie de forcément de faire... Moi, je n'ai jamais envie de faire du mal aux gens. Pas du tout. C'est franchement, c'est pas du tout mon truc. Hein. Mais forcément, dans même ce que la manière de raconter ou ce que je raconte, je vais... Par exemple, il y a une scène dans Les yeux des autres. Il y a... qui se passe au bord de la mer. Et donc Anna se trouve avec une autre femme et elles vont se baigner. Il y a toute une scène un peu, je sais pas comment dire, ironique ou sarcastique sur le vieillissement, etc., etc. Et en fait, forcément, il y a des gens qui se sont reconnus, enfin des gens. Et d'ailleurs, il y a une de mes filles quand elle a lu ce chapitre, elle m'a dit "Ah, non, t'es malade, qu'est-ce que t'as écrit ? T'es complètement folle, ma pauvre." Et je dis "Mais qu'est-ce qu'il y a ?" Elle m'a dit "Enfin." Tout le monde voit très bien.
Qui c'est ?
Je dis, mais ah bon, mais pas du tout, mais absolument pas, mais comment, mais non, mais je t'assure, mais si. Donc j'ai dit non, pas du tout, je d'ailleurs, devant, sous la torture, je ne l'avouerai jamais et tout. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, mais tout le monde a très bien vu. Enfin, mais d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'autres, n'a pas tellement d'importance, et je pense que c'est comme une espèce de petit mécanisme enfantin, presque. C'est aussi que. Quand vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire.
J'avais une petite question sur les prénoms, le choix des prénoms. Des prénoms qui reviennent régulièrement dans certains de vos livres. On trouve une généalogie des prénoms, surtout des prénoms féminins. Je voulais savoir comment vous les choisissez, quelle importance.
T'as une importance énorme.
Ouais.
Très grande importance. Mais probablement, j'ai choisi très mal. Mais il s'impose en fait à un moment donné. Nook, c'est Nook, et d'où ça vient, je pense qu'il y a, enfin j'en sais rien, après c'est plutôt aux critiques ou aux analystes de texte de trouver d'où ça vient, le pourquoi du comment. Un jour Nook s'impose, ou Olga, ou Monel, je sais que c'est un personnage de Marcel Schwab très important pour moi, qui est vraiment l'incarnation de l'enfance et de la liberté, donc le personnage s'appelle Monel. Erreur gigantesque d'un point de vue du marketing, parce que les Monel, il n'y en a nulle part, et donc bon, pour Molly et Anna, encore là, je suis assez. Ça va. Souvent, les personnages ont des noms un peu étrangers. Ils s'appellent pas. Ils n'ont pas des prénoms bien de chez nous, en quelque sorte. Et sans doute, ça, c'est comme un petit marquage du fait que moi, j'ai des origines très variées. Et donc, ça vient, même si je m'appelle Geneviève, ce qui est le correct. Donc, forcément, ça doit se faufiler par là. Quoi.
Mais Molly, quand même, c'est le verbe mollir.
C'est vrai, peut-être. Pourtant, elle ne mollit pas du tout.
Mais... Non, mais justement.
Pour parler de cette question, justement, Mélanie est étrangère. Enfin, vous faites allusion à ses origines. Et puis, on retrouve aussi dans vos romans.
On dit qu'elle est arménienne.
Elle est arménienne.
Mais en fait, c'est assez curieux parce qu'on dit qu'elle est arménienne, mais plusieurs personnes. J'ai fait un débat où il y a une dame qui m'a dit mais c'est vraiment la rescapée des camps typiques. J'étais, ah bon, bah alors très bien. Mm-hmm. C'est, peut-être d'ailleurs, peut-être typique, je ne sais pas si ça existe, mm-hmm. mais donc en tout cas, c'est une survivante, mm-hmm. une rescapée, c'est certain, mais deux choses complexes en fait. Mm-hmm.
Et pourquoi aussi cette influence de, je ne sais pas, des prénoms un petit peu slaves, russes, gros, enfin des auteurs aussi que vous aimez à citer. Pourquoi y a-t-il un esprit particulier que vous trouvez chez eux?
C'est certainement, on en a parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a, pour moi, il y a une importance de la patrie de la littérature. Pour moi, c'est quand même la Russie, même si elle a passé, beaucoup de Russes finalement sont arrivés aux États-Unis, de Juifs russes sont allés aux États-Unis et c'est devenu des grands écrivains américains aujourd'hui. Mais le fait est que je pense qu'il y a un foyer de littérature là, qui va avec une certaine inaptitude à la vie par ailleurs, mais de Babel à Tchekhov, je parle de Ludmila Ulitskaya ou Anna Akhmatova ou Svetaïeva, c'est des soutiens gigantesques.
Alors vous disiez aussi qu'en littérature la colère est bonne conseillère. Vous, donc dans ce livre Dans les yeux des autres, on retrouve aussi dans votre essai La marche du cavalier, je vous cite, hein, j'écris ce livre sous le coup de la colère ou sous le coup du chagrin, et vous vous définissiez entre guillemets comme nous avons commencé, comme une femme un peu en révolte aussi. C'est ce qui vous nourrit aussi en même temps, cette révolte, cette colère?
Oui, parfois je trouve ça ridicule, mais oui, je pense quand même qu'il faut un moteur, hein, comme le mien n'est pas d'entrer à l'Académie française, donc c'est plutôt de dire au monde, de dire ce que j'en pense, quoi, de le raconter ou de le décrire. Ça va avec de la colère parce que ça va de soi, hein, parce que l'injustice, hein, comme je le disais tout à l'heure, et puis aussi quand on écrit, enfin. Je ne sais plus qui disait en se moquant des intellectuels que les intellectuels croient toujours qu'ils peuvent transformer le monde avec leurs mots. C'était un homme politique, hein, qui disait ça, je ne sais plus quand j'ai entendu ça, peut-être Henri Guénaud disait ça. Et oui, c'est vrai, de toute façon, les écrivains intellectuels sont des gens qui ont la bêtise ou la folie de croire qu'ils peuvent changer le monde avec des mots, ce qui est évidemment débile. Mais en même temps, c'est débile, mais de temps en temps. Ça se passe, quoi. Donc, c'est quand même. Et je me souviens très bien, par exemple, pour Week-end de chasse à la mer, j'ai eu l'idée, le livre m'est apparu, comme une apparition, hein, dans un square, un jour d'hiver, un janvier, un dimanche de janvier, le pire du fond du trou du dimanche de janvier. C'était un square vers la gare du Nord à Paris. Et j'étais là avec ma fille dans sa poussette et j'étais malade et le square était complètement glacé, le tas de sable était glacé, il n'y avait personne. Et je me suis dit, mais c'est, alors voilà, ça c'est ma vie. C'est vraiment un jour je le dirai, quoi. Mais un jour je raconterai ce square et ils verront ce qu'ils verront. Ils ont vu.
Alors on trouve aussi dans votre roman beaucoup d'allusions à des musiques. Je pourrais citer par exemple le chant des partisans, bien sûr, la chanson du condamné à mort, la Lega, une chanson de lutte italienne. Est-ce que vous-même vous nourrissez de musique comme vous le faites en fait d'impression, comme vous nous avez raconté avant d'écrire pour
le. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est certain que les époques s'incarnent dans des chansons, des musiques. Moi, si j'entends le chant de la Révolution portugaise, Grandola Vila Morena, par exemple, ça m'émeut instantanément. C'est dans les cellules, hein, on le sent tout de suite, ça se réveille, ça fait un effet gigantesque. Le chant des partisans, le chant des marais, les chants italiens, des paysannes, des couilles, c'est des chants populaires, mais c'est aussi les chansons d'Aristide Bruand ou les chansons de Macorlan ou les chansons de Brassens. La chanson ramène, c'est d'ailleurs. Les chansons que vous écoutez aujourd'hui, elles inscrivent, quand vous les écouterez dans 25 ou 30 ans, la chanson, elle englobe un morceau d'espace-temps à l'intérieur. C'est la force des chansons.
Par rapport à la révolte, est-ce que écrire, ça permet de faire partager sa révolte aux autres, d'apaiser la sienne propre, voire les deux?
Je ne sais pas du tout ce qu'on partage. On ne peut pas le savoir. Par moment, on aperçoit quelque chose qui est partagé ou pas dans une. Mais comme je le disais tout à l'heure, je crois que il y a une part de don ou d'instinct ou de conditions qui font qu'un jour vous êtes mis à écrire pour une raison ou pour une autre, et puis vous avez persévéré ou pas. Évidemment, si vous avez persévéré tous les jours pendant 40 ans, ça finit par... c'est juste votre être, c'est comme un arbre, quoi. C'est ça que vous êtes, vous faites des cerises ou des pommes, mais vous en faites plus ou moins, des bonnes ou des pas bonnes, sur les années, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on est, quoi. Et donc, j'espère vaguement que ma forme de sensibilité, j'espère que quelqu'un qui a lu une année avec mon père, je l'ai quand même écrit un peu pour ça, ça partagera ça et donc vivra moins seule finalement des échéances qui sont quand même assez partagées par tout le monde. Et quand j'ai commencé à m'occuper de livres pour adolescents, je trouvais que souvent, quand on a lu des livres qui parlent des choses qu'on traverse, c'est un vrai... ça joue dans les deux sens. Quand vous lisez un livre qui parle de choses que vous avez vécues, vous sentez moins seul d'allemand. Vous n'êtes pas le dernier déchet de l'humanité. Il y a d'autres gens qui ont traversé. Et à l'inverse, quand vous avez lu tel ou tel ou tel livre et qu'il vous arrive telle et telle chose, vous la vivez autrement aussi. Donc ça se nourrit, ça se réactive d'autres choses. C'est vraiment un peu des clichés ce que je dis, mais c'est vrai que si la littérature, la peinture, la musique ou le cinéma ont plus d'intérêt que la boulangerie, et pourquoi on ne fait pas tous la boulangerie, parce que c'est, par exemple, ou des restaurants, c'est que ça transforme ce qu'on vit quand même. C'est... le livre que moi d'avoir vu, puisque je l'ai vu avant-hier, donc c'est pour ça que j'en parle, Les trois souvenirs de ma jeunesse, ça transforme ça transforme des même presque des souvenirs de ma propre jeunesse, en fait. Donc ça les réactive et ça interroge mes sentiments amoureux, donc ça transforme ce qu'on vit, ouais, donc ça le partage.
Je voulais évoquer avec vous un épisode dans votre roman, Toujours dans les yeux des autres, qui est un petit peu doux amer. C'est celui en fait où Anna revient à la mutualité, le haut lieu des luttes ou en tout cas des meetings de sa jeunesse. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que le lieu a été complètement transformé, qu'il manque 55 sièges. C'est un détail très intéressant dans la manière dont vous le racontez.
Péréquin, en l'occurrence.
Est-ce que vous êtes revenu vous-même à la mutualité, et pourquoi avoir raconté cet épisode après tout?
Parce qu'en fait, donc il y avait un épisode, je voulais beaucoup, parce que le premier texte que j'ai écrit, le premier texte politique que j'ai écrit, je voulais écrire un roman qui se passerait entièrement à la mutualité. Mm-hmm. C'était un concentré, un condensé très intéressant, et qu'en plus il y a très peu de romans, je trouve, qui racontent des moments comme ça, très très intenses, très très paradoxaux, avec des discours et puis des gens qui vivent des choses dans la salle qui n'ont rien à voir avec les discours d'ailleurs, etc., etc. Donc ça m'intéressait beaucoup de faire ça, et donc j'en ai écrit plein de versions, c'était jamais très très bon, mais pendant 30 ans, hein, donc j'ai vraiment beaucoup de... Et dans ce livre-là, je savais qu'il y avait une scène de meeting à la mutualité avec les garçons qui font le service d'ordre, les blousons, les gens qui parlent, les orateurs, blabla, etc., etc. Et la musique, et les drapeaux, Et puis, donc, forcément, il fallait que je refasse du repérage. Donc, je suis retournée à la mutualité. En fait, je n'y allais jamais. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je ne le faisais pas. Les semaines passaient, les mois passaient, je n'y allais pas. Il fallait que j'y aille. Un beau jour, j'y suis allée, donc un jour très froid d'ailleurs, comme c'est là, je crois. Et quand je suis arrivée, il s'est passé ce qui se passe. On m'a dit, vous pouvez pas entrer. Je peux pas entrer. Et donc j'étais mais sidérée. Parce que c'était privatisé. Mais c'était tellement dingue que ça soit privatisé que j'en revenais pas. Et donc j'ai compris effectivement que ça avait été racheté cette société E.G. Evans, qui en fait est Big Malion. Donc après, en plus, ça faisait un espèce d'écho rigolo, quoi, parce que c'était bien nous, c'était bien l'air de où on est. Et ils organisaient des événements, ce qui évidemment, ça me faisait marrer ce mot d'événement, quoi. Qu'est-ce que vous faites? J'organise des événements. Mais si vous organisez un événement, bah, il n'y a pas d'événement puisque vous l'organisez. Donc c'est déjà dans le mot, il y a un truc qui est vraiment drôle, quoi.
Merci Geneviève Pézage.
Je vous en prie. Merci Céline de cette interview.
Alors merci à vous d'être venue. Merci de votre générosité. Je tiens également à remercier bien sûr le personnel de la médiathèque de Rérieux, celui de la médiathèque de Trévoux, les bénévoles aussi qui nous ont lu aujourd'hui ces passages, ainsi que les lycéens du Val-de-Saône et leurs professeurs qui nous ont rejoints. Alors je n'oublie pas bien sûr la Villa Gillet, sans laquelle la rencontre n'aurait pas été possible, qui m'a fait confiance pour la modération. Merci à vous également d'être venus aujourd'hui. Merci à tous.
Merci. Merci. Bonne journée.